Infiltrée, une femme au stup. Convocation chez le juge. Un toxico nous donne le tuyau. Il achète ses doses d'héroïne à Stalingrad, à un grand Africain plutôt bel homme, bien fringué, et qui porte toujours une veste de costume. Il ajoute qu'il le rencontre toujours à la même heure, entre 17h et 19h, et toujours à côté d'un café. À 17h, nous filons à Stalingrad. Dominique B., Yvan, Jean-Michel et moi. Je ne vais pas faire un coup d'achat, mais je me suis donné le look d'une fille toxico, un peu déjantée, les yeux cernés, la tignasse rousse pas coiffée, errante au milieu des errants accrochés au crack. Je repère le dealer. La description de notre informateur était juste. Il est effectivement grand, en costume et costaud. Le lendemain, nous revenons et nous mettons en place un dispositif de surveillance et de filoche en piéton. Dans ce groupe et à cette époque, on n'a pas de sous, pas de matériel, pas toujours de bagnole, donc on se débrouille comme on peut. Au bout de 2 ou 3 jours, on a compris ce qui se trame et on s'installe. On voit le black en costume vendre une dose à un mec dans le café. On suit le type qui vient d'acheter sa dose et on le serre un peu plus loin en l'entraînant dans un porche d'immeuble pour ne pas donner l'alerte. Il a sur lui 2 doses d'héro et confirme qu'il les a bien achetées au grand black. Il ne sait évidemment pas qui c'est, etc., comme d'habitude. On le met au frais dans le commissariat le plus proche de Stalingrad et on reste planqué, centré sur le dealer. Il nous faut savoir où il habite. Si on l'attrape tout de suite, il risque de n'avoir sur lui que 4 doses. Il nous dira que c'est pour lui, ou il les avalera si elles sont dans des bonbonnes. Bref, il faut le filocher avant de l'interpeller. Nous découvrons qu'il habite dans un petit hôtel minable du voisinage. Il suffit de patienter. Nous attendons qu'il ressorte et nous le cueillons. Il prend l'air offensé dans le genre « Mon Dieu, inspecteur, mais que me voulez-vous ?» nous affirme qu'il est de passage et qu'il cherche une chambre d'hôtel. On rentre dans l'hôtel. On claque la carte de police sur le nez d'un Pakistanais amorphe qui regarde des films Bollywood derrière son guichet et on lui dit « La chambre de ce monsieur ». À regret, le mec finit par nous donner la clé et retourne à son film. On monte, on ratisse la chambre d'hôtel, une pièce minuscule avec juste un lit et un lavabo. On s'acharne, on démonte entièrement la piole. Et dans la colonne, derrière le lavabo, on trouve un sachet avec 80 grammes d'héro en vrac, un peson, une petite balance, bref, tout le matos du parfait petit dealer. On embarque le mec, on fait la procédure. Le mec est déféré devant un juge, il part au trou, au revoir Simone, et voilà. Le temps passe. Nous avions complètement oublié cette histoire. Mais un matin, Dominique nous dit « Oh là là, on est convoqué chez le juge parce que le grand black en costard. Vous vous souvenez de lui ? Il dit que ça ne s'est pas passé comme ça. Que c'est nous qui avons mis de la drogue dans sa chambre. Qu'il n'a jamais eu de drogue. Que ce n'est pas vrai. Et qu'il est impossible qu'on ait pu le voir en vendre. » Surprise. Nous avions fait la procédure dans les règles. L'acheteur avait été mis en garde à vue et dans la foulée, nous avions interpellé son dealer, c'est-à-dire le grand Africain en costard. Une confrontation en bonne et due forme avait eu lieu. Le dealer niait, mais le toxico confirmait qu'il lui avait acheté sa dose. Nous n'avons rien fait en dehors des clous, à part avoir caché que le tuyau sur le fameux black en costard venait d'un premier toxico arrêté. D'où notre planque pour observer et notre filature. Il nous arrivait bien de monter des usines à gaz pour pouvoir enquêter jusqu'au bout, mais cette fois, l'affaire était carrée. Dominique ajoute que le juge veut tous nous confronter avec le prévenu, qui sera assisté de son avocat. La convocation est pour le surlendemain. Le juge est une femme. Nous ne la connaissons pas, et nous nous renseignons auprès des autres groupes. Oui, la juge machin, elle n'est pas désagréable. Elle est très sévère, mais pas trop anti-flic. Il faut savoir qu'il y a des juges terriblement anti-flic. Exactement comme le juge Wagner dans la série Engrenage. Celui qui s'acharne sur la capitaine Laure Berthaud. Je connaissais aussi une juge qui avait eu une aventure amoureuse avec un mec de la BRB, Brigade de répression du banditisme. Elle s'était faite larguer et depuis, dès qu'elle pouvait, elle mangeait du flic à tous les repas. Là, nous aurons affaire apparemment à une magistrate sévère mais juste. Dominique nous dit « Bon, les gars, c'est pas l'affaire du siècle. C'est moi qui parlerai et c'est moi qui révise l'affaire. Donc bossez et moi je potasse. » On se remet au boulot. Lui, il sort la procédure et révise tous les points de détail de cette histoire que nous avions oubliée, parmi tant d'autres. Le surlendemain, clope au bec, nous partons chez la juge. Il y a Dominique B., Yvan, Jean-Mi et moi. On s'assoit sur le banc devant la porte du juge. À côté de nous, le black en costume, toujours le même costume, avec son avocat que je ne connais pas. Mais Dominique se penche vers nous. Oh putain les mecs, cet avocat-là, c'est pas un cador, mais c'est l'avocat le plus anti-flic que j'ai jamais connu. Au tribunal de Nanterre, j'avais été cité à la barre et il m'a fait passer la pire journée de ma vie. On se dit que c'est pas de chance, mais on ne s'inquiète pas, puisque Dominique a tout bien révisé. À peine entré dans le bureau du juge, nous n'avons même pas le temps de dire « ouf » que l'avocat attaque. « Madame le juge, je voudrais que ces personnes soient arrêtées immédiatement par les gendarmes. Ce sont des menteurs !»« Bon, écoutez, maître, » dit la juge. « Calmez-vous, nous allons procéder. » L'avocat continue, très agressif. « Je désire que ces personnes ne soient pas entendues ensemble, mais une par une. Madame le juge, je veux que... et que... » Nous, on commence à moins rigoler, parce qu'il n'y a que Dominique qui a relu l'affaire. On y était tous, on la connaît. Mais les détails, l'heure, le temps qu'il faisait... L'avocat me désigne d'un doigt accusateur. « Je demande qu'on commence par mademoiselle. » Mes camarades retournent sur le banc du couloir et je reste assise face à la juge, avec à ma gauche l'avocat vengeur et son client qui, forcément, ne m'a pas à la bonne. Je n'ai pas encore appris à être une autre personne, à afficher ma solidité. Je ne suis pas non plus au mieux de ma forme et je me demande ce qui va se passer. L'avocat vient de dire qu'il veut que je parte entre deux gendarmes. Chose inimaginable. Maintenant, j'ai un peu la trouille. Même si je ne vois pas où il veut en venir, puisque nous n'avons rien inventé. Cependant, avec la justice, tout est toujours possible. En quelques secondes, on peut devenir un accusé. En particulier dans notre profession, où l'on passe très vite de notre statut d'officier de police à celui de méchant. De flics menteurs et malfaisants. La juge commence à m'interroger. Je lui réponds avec le plus d'exactitude possible. Et je m'en sors bien, malgré l'avocat qui pousse de grands soupirs méprisants ou des négateurs pendant que je parle. Quel cinéma ! La juge doit le rappeler à l'ordre plusieurs fois. Je ne délaye pas mes réponses. J'essaye d'être précise et de coller à l'histoire telle que je l'ai vécue. Quand on dit la stricte vérité, tout est simple et fluide. Hélas, parfois la vérité ne suffit pas. La juge n'a plus de questions et me remercie. Je me lève pour partir quand l'avocat bondit. « Je ne suis pas d'accord, madame le juge. » Il faut qu'elle parte entre deux gendarmes. Vous voyez bien qu'elle ment. La juge tente de le tempérer. Il insiste. En tout cas, je refuse qu'elle puisse voir ses collègues. La juge soupire. Maître, pour vous satisfaire, mademoiselle, venez avec moi. Je vais vous mettre dans le petit bureau d'à côté. Elle m'accompagne, et à ma grande surprise, me fait un discret clin d'œil en ne refermant pas complètement la porte de séparation. Cela allait me permettre d'entendre ce que mes camarades allaient dire. Notre seul problème était que seul Dominique avait révisé l'affaire et connaissait les détails, les heures, le nom de l'hôtel, le numéro de la chambre, etc. Si on divergeait trop sur les détails, ce serait mauvais pour nous. Certes, avec cette porte mal fermée, je n'allais pas pouvoir surgir du bureau d'à côté en disant « C'est pas vrai, moi je dis que la devanture de l'hôtel était verte. » Ou « Non, c'était dans la chambre 12, pas la 27. » Mais c'était rassurant de pouvoir les entendre. Je reste assise dans ce bureau vide, sans bouger, l'oreille aux aguets. Je me dis « Putain, ça fait même pas un an que je suis au stup. Et ça pourrait se finir à cause d'une histoire invraisemblable de mauvaise procédure. » ou sur l'accusation d'un type non seulement trafiquant de drogue, mais en infraction à la législation sur les étrangers. On avait découvert 80 grammes d'héroïne planquée dans sa chambre, tout de même. Mais il avait dit à son avocat, « C'est pas moi, ce n'est pas vrai, je n'ai jamais eu 80 grammes. C'est eux qui ont caché la drogue. » C'est le grand fantasme. On serait dans une dictature où la police piège ainsi les opposants politiques, ce serait vraisemblable. Mais en France, faut pas débloquer. Mes collègues témoignent l'un après l'autre. À quelques détails près, sur tout ce qui concerne l'enquête, nous sommes raccord. L'interpellation du toxico, les bonbonnes qui étaient confectionnées et s'avéraient être issues des mêmes sachets plastiques que ceux que nous avions retrouvés dans la chambre, tout se tient. Quoi qu'il en soit, il est instructif de se rendre compte que même innocent, on a peur quand on se retrouve devant un juge d'instruction. Et encore plus peur si on doit faire face à un avocat prêt à tout pour nous enfoncer. Le juge reste en général assez juste. L'avocat, la vérité, il s'en fiche. Il veut défendre son client, et pour cela, tous les coups sont permis. Cette fois-ci, il n'aura pas gagné contre nous. Il est parti, très dépité, et la juge a maintenu son client en détention. Nous sommes rentrés en fumant clope sur clope de soulagement. Sauf Dominique, qui ne fumait plus. Par les couloirs du palais, qui ramènent directement au 36. Je me rappellerai toujours la petite porte qui ouvre sur la cour qu'on traverse en longeant la Sainte-Chapelle, et hop hop hop, nous voilà de retour chez nous, au stup, en passant par l'intérieur. Ce temps n'est plus, puisque le 36 quai des Orfèvres, tout comme le palais de justice de Paris, ont été transférés dans de tristes tours ultramodernes au fin fond du 17e arrondissement. Une autre histoire montre bien à quel point nous sommes à la merci du faux témoignage de n'importe quelle baltringue. Un dimanche matin, à 8h, je prends la relève de l'équipe de nuit. Je suis seule de permanence jusqu'à 9h. La cage des gardes à vue est pleine à craquer. Il y a 60 personnes qui attendent. C'est le grand bazar. Le gardien de la paix m'amène un de ceux que j'avais demandé à entendre. Je vois que dans la nuit, les gardiens m'avaient mis un mot. Attention, plutôt remuant et insultant. Je commence l'audition. Le mec me répond moitié en arabe, moitié en proférant des insultes parfaitement bilingues. Il crache par terre, ne répond pas à mes questions. La moutarde me monte au nez. Je lui dis « Je t'explique pour que tu comprennes bien. Ici, les femmes, elles ont le même pouvoir que les hommes, et c'est moi qui commande. Donc c'est pas la peine de cracher par terre, de m'insulter. C'est moi qui décide quand tu pars là-bas, quand tu vas pisser, quand tu iras chez le procureur, d'accord ? Inutile de me faire ton sketch. » Le mec se balance sur sa chaise de plus en plus dangereusement, comme un chat avant de bondir. À ce moment-là, heureusement, la porte s'ouvre. C'était un collègue qui amenait le livre de garde à vue pour que je le signe. Mais pris dans son élan et sa fureur, le prévenu en face de moi ne le voit pas entrer. Il se jette sur le rebord de mon bureau et s'ouvre l'arcade sourcilière. Et là, en arabe et en français, il me dit « Tu vois, salope, tu verras !» Heureusement, j'avais un témoin inopiné. S'il n'y avait eu personne, les gens ne m'auraient jamais cru. Ils auraient été certainement conscients du fait que je pouvais mettre une ou deux claques, mais pas martyriser un mec et la mocher comme ça. Je n'en ai pas la force physique, ni l'intention d'ailleurs. J'ai été entendue. J'ai dû faire un rapport, et cela n'a pas été plus loin. Mais on sait qu'il y a toujours quelqu'un qui ne nous croira pas. Tu penses bien qu'autour de lui, il n'a pas dû raconter ça comme ça. Il a dû dire « Cette pute, elle m'a frappée ». Dans le domaine des stupes, chez les mecs qu'on arrête, tout n'est que mensonge. Ils jurent sur la tête de leur mère, qui en sont mortes au moins 10 fois, les pauvres dames. Et les mères, elles, couvrent leurs enfants délinquants, surtout les fils. »